Bonjour à tous, je me présente Mylène Germain. Je vais vous accompagner dans les prochaines semaines et les prochains épisodes à travers notre univers qui est les soins de longue durée et l'hébergement en CHSLD. Ça nous fait vraiment plaisir de vous montrer une facette plus positive et qui est plus rayonnante du travail au quotidien, mais aussi des éléments qui sont porteurs pour les différents acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit des résidents avec leurs proches, des employés, gestionnaires et médecins. On va vous faire vivre à travers les différents épisodes un peu de notre passion et de qu'est-ce qu'il y a de beau dans nos milieux. Le premier épisode, celui que vous allez écouter dans quelques instants, se décline en deux parties. En première partie, on va vraiment aborder et faire un survol des différents épisodes de la saison, ainsi que des grandes thématiques qui vont être abordées. Donc vraiment pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner envie de poursuivre votre écoute avec nous. En deuxième partie, toujours avec Marie Janelle, directrice du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées, ainsi que Dr Suzanne Lebel, médecin de famille et co-gestionnaire médical à la direction SAPA Hébergement. On va aborder la co-gestion, la gestion participative, la gestion de proximité, pourquoi ce choix-là, quelle différence ça peut faire dans les soins de longue durée. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute avec nous, puis je vous souhaite la bienvenue dans notre univers des soins de longue durée, puis en espérant que vous allez apprécier ce que vous allez entendre dans les prochains épisodes et celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute! Yeah.
On prend soin de nos aînés. Passion, partage et compassion, notre façon de travailler. Pour vivre vieux et vivre heureux, on a de nouvelles idées. On veut tout améliorer, vous pouvez vous impliquer. Des milieux de vie et bien plus.
Alors on y va!
Exactement. Aujourd'hui, on enregistre notre premier épisode de Balado qui lance notre série qu'on va parler un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je suis Mylène Germain. Je travaille comme conseillère cadre à la direction SAPA, qui soutient l'autonomie des personnes âgées à l'hébergement. Donc, plus précisément, les CHSLD et les maisons des aînés là, au niveau du 6 des Laurentides. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de...
Marise Janelle, bonjour tout le monde. Je suis la directrice de la direction de l'hébergement.
Moi, je suis Suzanne Lebel, médecin de famille au 6 des Laurentides depuis bon nombre d'années.
Donc, pour lancer notre série balado, on va faire une introduction puis on va se mettre un peu l'eau à la bouche des prochains épisodes. Donc, j'ai envie de vous demander tout de suite d'entrée de jeu, pourquoi avoir décidé de faire une série balado?
Bien, en fait, ce que je trouvais important de démontrer, c'est tout ce qui se fait de beau et de bien au quotidien à l'intérieur des différentes maisons au sein du 6 des Laurentides. Je pense que trop souvent, dans les médias, que ce soit en lien avec le 6 des Laurentides ou en lien avec d'autres 6 SUS du Québec, ce qui va ressortir dans les médias, c'est un peu les choses qui ont moins bien été.
Négative.
Oui, que ça a mal tourné, que c'était pas nécessairement correct. C'est des choses qui minimes par rapport à tous les mille et un gestes qui se font au quotidien par l'ensemble des acteurs qui gravitent à l'intérieur des maisons. Fait que je trouvais ça important de faire ressortir tout ce qu'il y a de beau et de bien qui se passe dans les maisons.
Tout à fait. Puis là, Marie, je t'entends, on parle de CHSLD, puis là, on dit maison. C'est un changement aussi, ça, de parler de maison à place d'unité ou de CHSLD?
Pour ma part, plus ou moins. En fait, ça fait des années que moi, j'utilise le terme maison. Beaucoup, beaucoup d'années, ça fait partie de mes emplois antérieurs où mon supérieur immédiat, ma supérieure immédiate utilisait ce terme-là, maison, et j'ai beaucoup aimé ça et je comprenais mieux l'essence même de ce que c'est les CHSLD, c'est-à-dire, c'est les maisons.
C'est leur maison.
Alors moi, j'appelle ça les maisons. Et avant même l'arrivée du terme maison des aînés, moi, dans mon équipe, j'ai toujours utilisé le mot maison.
Puis l'équipe utilise le mot maison.
Oui.
Puis ce qu'on voulait faire aussi, c'est de faire connaître beaucoup plus les CHSLD et aussi de leur accorder un rayonnement qu'on ne voit pas souvent. C'est des milieux qui méritent d'être connus. Puis on parle aussi hein, de transformation des milieux. Alors ça, c'est quelque chose qui est très actuel. On prend toutes sortes de mesures pour être beaucoup plus centré sur les besoins des résidents. Et puis, il y a toutes sortes de gens très passionnés au niveau des employés, des médecins, des gestionnaires qui ont une passion pour les soins de longue durée et tous ces gens-là méritent d'être reconnus. Puis, comme tu as dit, Marie, il est temps qu'on en parle positivement.
Oui, tout à fait.
Plus. C'est vrai, moi, je ne veux pas nier qu'il y a des difficultés. Il y en a. Mais il y a aussi énormément de positifs. Puis, il y a des gens très heureux en CHSLD.
Donc, je comprends que tous les prochains épisodes vont vraiment nous plonger à différents thèmes, thématiques, sujets de ce qu'on peut retrouver à l'hébergement, dans nos maisons, avec les différents acteurs. Ben, pour nous mettre l'eau à la bouche puis se donner envie de continuer à écouter, est-ce que vous pouvez m'entretenir un peu de ces prochains épisodes-là qui vont sortir dans les prochaines semaines ou même si vous les écoutez en rafale, elles sont peut-être toutes déjà là, fait que hâtez-vous à les écouter.
Oui. Ah ben, en fait, un que je commencerai, c'est la transformation des milieux. Tantôt, Dr Lebel a mentionné la transformation des milieux. On le sait qu'il y a les maisons des aînés, la vision qu'il y en a des maisons des aînés. Je dirais qu'ici, au niveau des Laurentides, cette vision-là, on l'avait. Puis, bien avant, on pourrait se dire ça, hein, c'est rare que je me permets de nous donner des fleurs, de donner des fleurs.
Il faut.
On a commencé à travailler beaucoup plus en amont dans le temps pour préparer l'arrivée des maisons des aînés, surtout qu'il n'y ait pas de différence entre une maison des aînés et les CHSLD, les maisons existantes présentement. Mm-hmm. Oui, c'est sûr, au niveau de l'architecture, mais ce qu'on souhaite, c'est ce qui se passe dans les maisons, que ça soit la même chose.
Le soin, le 24 heures,
du résident.
Peu importe le lieu,
voilà.
Et la même qualité de service, de ouais. soins.
Fait qu'il y a un épisode, là, hein, vous allez voir, on va vous en parler, de cette transformation-là qui s'opère...
Peut-être ajouter à ça qu'autant il a fallu innover, développer l'innovation pour les maisons des aînés, maisons alternatives, bien autant c'est vrai aussi en CHSLD. Il y a une grande ouverture à l'innovation. Il y a toujours de la place pour l'innovation à toutes sortes de niveaux. Alors, je pense que c'est caractéristique.
Oui. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de comment... renforcer les bases de que ça peut paraître banal, mais la bienveillance. Être bienveillant, ce qui va amener la transformation. Ben, c'est super intéressant. On a hâte d'entendre la suite. Fait que, transformation des milieux d'hébergement, c'est une des grandes thématiques.
Effectivement. Deuxième thématique, c'est intéressant. Celui-là, on va entendre parler une diade qu'on n'entend pas nécessairement souvent coller un à côté de l'autre. C'est-à-dire un médecin et une préposée aux bénéficiaires qui vont nous parler du plaisir de travailler en hébergement. Comment c'est venu allumer cette fibre-là à l'intérieur d'eux? Puis j'ai comme l'impression qu'ils s'en passeraient plus. Je dis ça comme ça. C'est pas Dr. Lebel?
C'est tout à fait vrai. Puis je dirais que lorsque, comme médecin, on veut discuter beaucoup plus du quotidien d'un résident, d'une résidente, c'est aux préposés qu'il faut parler. Et quand le préposé voit que le médecin lui parle et tient vraiment compte de son opinion, de son expérience auprès du résident, bien, ça stimule le préposé à en faire encore un peu plus. On ne voyait jamais ça avant. Un préposé qui vient voir le médecin, qui dit « Docteur, tu sais, j'aimerais ça vous parler de telle chose.
»
Alors, et ça permet... une plus grande cohésion d'équipe. Malheureusement, les préposés ont longtemps été traités à part complètement de l'équipe soignante, comme s'il n'y avait pas d'importance, mais ils ont une très grande importance et ils vont en avoir de plus en plus.
Ben oui.
Alors, c'est de ça que ça parle.
Ben oui, puis j'ai envie de dire aussi, à travers les épisodes, on rencontre deux préposés différentes qui, on sent la flamme, là, les par des ambitions, par des projets, donc il y a comme, c'est pas éteint, on peut grandir, on peut se développer, puis le titre d'emploi, on sent pas qu'il est... il y a d'impact ou qu'on est mis plus dans l'ombre. Au contraire, tout le monde se fait rayonner, oui. Peu importe.
C'est important.
Où est-ce qu'on travaille, puis...
Exactement. Chacun a son rôle.
Très intéressant. Mm. Oui.
Prochain épisode?
Oui, prochain épisode.
Prochain épisode. Alors là, on va entendre parler le résident lui-même. Fort intéressant, hein? Puis je pense que c'est... J'oserais peut-être dire, puis Mylène, tu me diras... Je pense que ça va être un épisode un peu touchant.
Très touchant, oui.
Dans le sens où on peut avoir la perception dans l'idée, dans l'imaginaire populaire. On s'en va en hébergement, c'est pour mourir, puis on perd tout espoir.
C'est fini,
puis voilà. Mais je pense que c'est pas ça qui est arrivé à ce résident-là.
Non.
Ça va être intéressant d'entendre sa vision des choses, comment lui, avec ses proches, hein, parce que je pense que...
Une proche aidante
qui est là. Ouais. Comment... Qu'est-ce que ça a changé dans sa vie?
Oui,
c'est arrivé là en hébergement.
Exact.
Tout à fait. Puis, on pense tout le temps que, bon, c'est la fin quand on rentre en CHSLD. Bien, il y a des résidents pour qui leur vie se réouvre en CHSLD.
Oui.
Parce qu'ils sortent aussi de l'isolement de leur domicile.
Mm-hmm.
Puis aussi, bien, nous, on travaille beaucoup en partenariat, mais ça s'apprend. Devenir partenaire de soins. Et lorsque le résident, ses proches le comprennent, oh, c'est un gros plus, là, dans le quotidien, puis toute la question des soins et de la qualité de vie.
Exact. Puis ça, on a bien qu'on est arrivé pour cet épisode-là, on est en plein été. Gros party à Hawaii, c'est la fête. T'sais, là, on se sentait presque mal, on leur coupait leur party en après-midi pour l'enregistrement, parce que là, il y avait des muffins au pina colada qui arrivaient, fait archi-vivant comme milieu, on est ressorti moi-même ressourcée de... J'avais envie de rester là
oui,
quasiment
hein?
Profiter de la terrasse, puis du fait c'était très, très, très vivant et très joyeux comme environnement. Mais un bel épisode, tout à fait, avec un couple de résidents.
Mais je trouve que ça fait, quand tu nommes ça, je trouve que ça fait un beau lien avec l'épisode qui va suivre. Quand on parle d'impact de ce qui se passe dans la maison, de l'impact de la gestion, comment on amène notre couleur aussi. Hein? On souhaite, comme gestionnaire, être près de nos équipes, être près des résidents. On fait partie du cœur de la vie des gens. Tu parlais qu'il y avait une ambiance. Moi, ce que j'ai dit souvent à ma gang, si je peux m'exprimer comme ça, c'est important qu'il y ait... Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? C'est quoi la vibe? Je m'excuse de l'anglicisme, là, mais c'est, quand on rentre, c'est quoi? C'est quoi la signature de la maison? C'est comme un peu tout un chacun dans nos propres maisons, dans nos propres domiciles. Il y a une odeur, il y a une façon, il y a quelque chose qui se dégage. C'est ce qu'on souhaite. Puis le gestionnaire qui souhaite être près de ses équipes, c'est ça qui peut permettre de réaliser puis de créer cette vibe-là, si je peux me permettre.
Tout à fait.
Oui, tout à fait. Puis on vit tous ensemble dans le CHSLD. Les employés, ils viennent faire leurs 8 heures, OK? Ils vivent ici aussi. Puis comment on peut s'organiser pour bien vivre tous ensemble, puis créer, comme tu dis, Maryse, une belle atmosphère qu'on va ressentir aussitôt qu'on met les pieds dans la maison, là. Puis essayer aussi de développer des liens entre la communauté, les résidents, les proches, les équipes de soins. Ça, on a encore beaucoup à faire par rapport à ça, mais moi, je suis absolument convaincue que c'est possible. Je dis tout le temps, un résident en CHSLD, c'est encore un citoyen à part entière.
Entièrement d'accord, t'sais? Suzanne.
Il peut continuer de contribuer dans sa communauté, puis il peut aussi bénéficier de services offerts par la communauté.
Ben, oui.
Alors, moi, je pense que dans les prochaines années, on va beaucoup voir l'essor de cette dimension-là.
Ouais. Puis on rencontre une gestionnaire qui le fait bien vivre.
Oui.
Puis je me permets de le dire parce que l'enregistrement était avant un peu ça, mais cette gestionnaire-là a réussi à amener, je pense, à la table des citoyens de la ville, des résidents qui participent, dans le fond, à la vie citoyenne de leur ville.
Oui, puis c'est pas parce que tu arrives en CHSLD que ça te tente plus et que ta contribution à la société est terminée.
Mm-hmm.
Si t'as jamais été dans toi, ben, que tu sois une place ou à l'autre, tu le feras pas. Mais quelqu'un qui a été engagé dans sa communauté souhaite continuer à être engagé dans sa communauté.
Oui.
Puis il faut rendre ça possible.
Ben oui, puis c'est sûr que c'est une richesse pour la ville aussi d'avoir cette proximité-là avec le centre d'hébergement.
Oui, puis quand on parle de proximité, ça peut être aussi les gestionnaires. Il y a des gestionnaires qui travaillent à proximité de leur domicile. Fait que toute cette vie de communauté, c'est important aussi.
Puis il est tout à fait possible que quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment impliqué dans sa communauté trouve une motivation à le faire à sa mesure. Je pense qu'on ne peut pas et on n'a pas à forcer personne, mais je veux dire, on peut encore découvrir et apprendre même si on est en CHSLD.
Ouais.
Alors, c'est ça, tu sais, qu'il faut maintenir, favoriser, stimuler, soutenir de toutes sortes de façons, toutes les façons qu'on pourra penser.
Exact. Puis on conclut, je pense, avec un dernier épisode, on conclut avec un dernier épisode en deux parties qui traite de quoi plus précisément?
De l'interdisciplinarité. Quel grand mot, hein?
Mm-hmm.
Quel grand mot, mais je pense qu'il est hyper important. On parlait tantôt que tout le monde peut contribuer dans la maison. Hein? On a dit ça tantôt. Je pense que c'est important, ce travail d'équipe-là.
Oui.
Faire équipe. Faire équipe où chacun a sa part, chacun a son, son rôle, ses responsabilités, la contribution de tous est hyper importante. Je pense que chacun apporte son petit plus et qui fait que ça fait toute une différence de travailler en interdisciplinarité.
Bien, tout à fait. Puis moi, j'aimerais ça vous dire que l'expression la plus moderne, c'est plus interprofessionnalisme que interdisciplinarité.
Oui.
C'est pas grave, on se comprend. Mais l'expression officiellement consacrée, c'est interprofessionnalisme. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dépendant des situations, un ou deux ou trois professionnels vont avoir un beaucoup plus grand rôle à jouer, dépendant de ce qui se présente.
Mm-hmm.
Alors, il y a des personnes pour qui ça va être avec le pharmacien que ça va se passer, d'autres, ça va être avec le travailleur social, d'autres, ça va être directement avec son infirmière, puis quand on les observe, elle donne énormément de soutien de façon tout à fait naturelle et généreuse, tu sais. Alors, les gens se sentent écoutés, ils se sentent accueillis, puis lorsqu'on fait jouer le rôle de chacun, c'est pour ça qu'on parle d'inter maintenant plutôt que de multidisciplinarité comme ça avait commencé, c'est que ça crée une synergie.
Oui.
OK? Et là, l'effet de travailler à deux ou trois personnes sur une problématique, c'est pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, ça peut donner 9 ou 10.
Oui.
Tu sais? Et on s'alimente les uns les autres, y compris le résident et ses proches. Et c'est là qu'on peut trouver aussi des solutions qui sont créatrices. On a beaucoup besoin de ça, la créativité, et innovatrice. T'sais? C'est la créativité qui va conduire à l'innovation.
Oui. Oui.
Et ça, c'est l'apanage de tout le monde, là.
Oui.
Ça appartient pas à un intervenant en particulier.
Dans le fond, on module ou on adapte toutes nos façons de faire en équipe pour mieux répondre aux besoins des résidents.
Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est un gros élément qui amène une satisfaction personnelle et professionnelle. Quand on sent que le fait de travailler en équipe, c'est vraiment un plus pour le résident et ses proches. Des fois, moi, je le dis, là, sens que je suis à la bonne place, au bon moment, je fais la bonne chose de la bonne façon. Mm. Fait que c'est ça que ça nous amène. Puis c'est important de le souligner. Oui. Moi, ça m'arrive souvent de dire aux gens, regardez ce qu'on vient d'accomplir, là.
Mm-hmm.
Tu sais, il y a quelques semaines ou quelques mois, on était là. Bien, regardez comment on a progressé et où on est rendu.
Tout à fait.
Ça aussi, c'est un élément important de le nommer, de le reconnaître, de souligner les forces de chacun. Mm-hmm. OK? Ça fait toute partie aussi de ce qu'on appellerait, tu sais, le partage et la communauté d'esprit dans une équipe.
Mm-hmm. Oui, les gens se co-développent ensemble. Pis
exactement.
Ce qu'on ressentait beaucoup aussi avec les employés qu'on a rencontrés, c'est l'importance qu'a le résident dans cette équipe-là. Puis c'est le point névralgique et central. Puis quand c'est pas le résident, parce qu'il peut pas nécessairement s'exprimer par lui-même ou quoi que ce soit, bien c'est les proches. C'est quelqu'un de significatif qui est partie prenante de cette équipe-là.
Oui.
On le ressentait beaucoup, puis on ressentait par les professionnels qu'on a rencontrés l'importance de cette participation-là pour donner un sens à leur travail. Donc, très riche comme discussion. Donc, on va toucher très large dans ces épisodes-là.
Oui.
On souhaite intéresser tout le monde par la suite puis de faire rayonner le travail et le quotidien, en fait. Pas juste le travail, le quotidien en CHSLD dans nos différentes maisons là, au niveau des Laurentides.
Super!
Ben, merci, mesdames. Cette deuxième partie, on est toujours avec Maryse et Dr Lebel. On va explorer dans cette deuxième partie de l'épisode, en fait, un peu qu'est-ce qui a fait que vous avez osé à la direction SAPA Hébergement, puis au CIS des Laurentides. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais ça que vous échangiez puis qu'on parle un peu de c'est quoi les valeurs qui guident au quotidien votre travail, mais aussi le travail dans les maisons, dans la direction. Un peu, c'est quoi le moteur derrière tout ça?
Je dirais que le moteur, pour ma part, que je véhicule beaucoup, beaucoup, c'est la bienveillance. C'est, je crois, puis pas je crois, j'affirme que c'est ma valeur chouchou, que j'essaie de transcender, de transmettre à l'ensemble des gens avec qui je travaille. Ce serait la première, moi, qui me viendrait.
J'abonde dans le même sens que toi, mais c'est sûr que moi, comme médecin, ce que je veux, c'est vraiment offrir des soins de qualité, et ça passe par un grand professionnalisme, par un sens de l'éthique, par le respect du résident et de ses proches. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça, puis ça me motive tout le temps, chaque jour. Ça me motive, puis bien écouter pour bien comprendre les besoins, puis faire que la personne se sent à l'aise de les nommer, ses besoins, de les dire. Je sais bien que c'est pas ce que je dis là, c'est pas tout à fait une valeur, mais une valeur, c'est quelque chose qui nous motive et qui sous-tend notre travail au quotidien, minute après minute, je dirais.
On pourrait-tu parler à ce moment-là de collaboration?
Absolument.
Puis si on va un peu plus loin, si on va plus loin que la collaboration, ça pourrait être le partenariat.
Absolument. Tu sais, c'est comme le partenariat, d'une certaine façon, découle de la collaboration interprofessionnelle. Moi, vous savez, j'ai 45 ans de pratique. Puis bon, j'ai fait beaucoup de pratiques en centre hospitalier, etc. Puis je n'en revenais jamais qu'on se réunisse pour discuter de patients en leur absence. OK? Et tranquillement, la collaboration nous amène à aller chercher aussi le point de vue de la personne et de ses proches. Et c'est ça qui nous a fait, je pense, tout le monde développer le partenariat de soins. Il reste beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, mais ça existe.
Ouais.
Ça existe pour vrai. À certains endroits, c'est très, très bien établi. Quand moi, je travaille avec les résidents en médecine familiale, bon, ils m'arrivent, ils ont évalué une situation, là, ils me disent, « Docteur Lebel, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Puis là, je leur dis, ben, en as-tu parlé avec le résident?
Trop
souvent.
Oui. Hein, trop souvent.
Oui.
Puis je vais le dire, puis je m'excuse pour toutes les gens
comme du réseau. Ça sent.
On est prétentieux. Ouais. On prétend savoir parce que j'ai un bac, parce que j'ai une médecine, on prétend qu'on sait.
Oui.
Qu'est-ce que le résident veut?
Oui.
Comment souhaite-t-il que ça se passe? Mm. Ça, c'est des questions fondamentales qu'il faut s'assurer de poser. Parce que sinon, je pense qu'on va travailler, pour rien. On va travailler pas dans la bonne direction.
Oui.
Fait que ce partenariat-là est super important, autant avec les résidents, les proches, qu'avec les équipes. Et aussi un tandem que Dr. Lebel, Dr. Lebel et moi, on forme. C'est notre tandem de co-gestion. C'est quelque chose peut-être qui se fait ailleurs aussi dans le réseau. Les gens qui écoutent, ben oui, moi aussi j'en ai un co-gestionnaire médical. Ou moi aussi, si c'est un médecin qui écoute, ben oui, moi aussi je travaille avec une gestionnaire. Mais je regarde Dr. Lebel, puis c'est... Au début, ça faisait peur d'implanter, de regarder comment on peut travailler encore plus proche ensemble. Et que je m'en passerai pas aujourd'hui.
Exactement.
Et que je m'en passerai pas, je me sens seule.
Oui.
Oui.
Fait que ça l'amène, dans le fond, c'est la co-gestion un peu amène de... Parce que là, comme directrice, c'est qu'on efface un peu nos angles morts? Ben, ou c'est que ça change la manière de...
Non, quand... Oui, puis je veux pas avoir l'air prétentieux. Je parlais de prétention tantôt, là. Bien, on est tout seul, puis on est payé pour décider, même si on le fait d'une façon en partenariat, en gestion de proximité, en co-gestion...
Avec son équipe.
Avec son équipe. Mais là, travailler en co-gestion, proche-proche, c'est autre chose, là. Là, je te dis, une minute, là, faut que je m'attache, je suis tout seul. En même temps, quand je dis ça, bon nombre de fois, Dr. Lebel et moi, on se parlait, puis je me disais, oh mon Dieu, je ne suis pas tout seul. Je suis
vice-versa.
On pouvait s'accoler ensemble.
Oui.
Une écoute, un échange, porter des problèmes, porter des situations. Oui. À deux temps, un autre regard.
Oui. Oui.
Complètement. Regard médical, puis le regard de gestion. C'est deux regards complètement différents, mais de la même réalité, par exemple.
Tout à fait.
Puis, tu sais, si on regarde ça, là, il y a plusieurs années, ça commence à changer, mais... On a toujours parlé du fossé médico-administratif, OK? Mm. Puis les médecins avaient peu ou pas d'ouverture à la réalité des gestionnaires, puis l'inverse était aussi vrai. Puis dans le fond, la co-gestion, bien, c'est mettre nos expertises ensemble pour que ça crée une valeur ajoutée pour le résident, le patient, les proches, etc. Et... Il y a des dimensions qu'on a touchées, qu'on n'aurait pas soupçonnées finalement. Mm-hmm. Puis cette collaboration avec le temps, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit de part et d'autre, mais ça finit par devenir une forme de complicité.
Ben oui.
Alors là, la satisfaction est encore plus grande et c'est là qu'on peut aller toujours un peu plus loin. Toujours un peu plus loin, toujours dans l'optique de la valeur ajoutée pour les résidents, leurs proches. Et ce faisant, je ne sais pas, Marie, si ça te tentait d'en dire un mot, mais dans chaque établissement, ça nous amène à travailler directement avec le comité des résidents et tout ça. Tu sais, je sais qu'il y a des expériences, c'est le fun que tu en parles.
Bien, en fait, c'est que il y a notre duo.
Oui.
Mais on souhaite toujours avoir proche de nous un usager, un résident, un proche qui va nous donner l'éclairage de la réalité de ce qui se passe dans les maisons, de comment ils souhaiteraient que ça se passe.
Être la voix du résident.
C'est hyper important. Fait que c'est pour ça que le modèle, il y a Dr. Lebel, moi, un résident ou un usager qui nous accompagne. Et dans les maisons, c'est la même chose. Puis l'instance ou le groupe, c'est principalement le comité des résidents, qui sont le regroupement ou le comité qui existe dans chacune des maisons et qui permet d'être la voix des résidents. Il y a des résidents qui sont en masque à part, ils nomment leurs affaires. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles, il y en a d'autres qui sont plus effacés. Mais c'est important d'avoir la voix ça nous permet d'avoir le regard de cette réalité-là, mais différents regards. Hein, on voit toute la même chose, on voit toute la table, on est assise les trois autour de la table. On voit toute la même chose. Mais la façon que tu vas le décrire, la façon que le Dr. Lebel va le décrire, que je vais le décrire, ça va être différent. Mm-hmm. Là, on pourrait s'ostiner trois ans de temps sur le micro, comment il est placé. Mm-hmm. Mais il est toujours bien là, le micro, puis on peut s'entendre, bien voici, puis c'est comme ça. Ouais. Surtout la voix du résident, comment il souhaite que ça mm-hmm. se passe. Il faut l'entendre, parce qu'on peut penser des fois qu'on a des bonnes idées, mais finalement, on est complètement à côté. C'est pas ça qu'il souhaite, le résident, là.
Non.
C'est pas ça du tout qu'il souhaite que ça se passe dans la façon. Donc, je pense que c'est important toujours d'avoir cette voix-là qui accompagne et le médecin et la gestion.
Puis de où ça l'a émergé? Est-ce que ça a toujours été comme ça, la co-gestion ou le partenariat? Qu'est-ce qui a fait émerger ou qu'est-ce qui vous a amené à se dire, ben là, on essaie de faire les choses comme ça?
Docteur Suzanne Lebel.
Okay. Mais j'aimerais ça dire quelque chose. Oui. Je vais vous remonter loin, okay. Mais c'est quand même vrai.
Okay.
Avant la naissance de l'assurance maladie, c'était les religieuses qui dirigeaient les hôpitaux. C'est ça qui existait à l'époque. Il n'y en avait pas de CLSC. Ni de CHSLD,
non.
D'ailleurs. Mais c'était une co-gestion entre les médecins et les religieuses. OK? Puis ça, c'était très, très, très vivant, très dynamique, OK? Quand l'assurance maladie est née, ça a tout été évacué, OK? Puis je crois aussi, tu sais, il y a, par exemple, en oncologie, ça existe beaucoup plus,
mm-hmm.
La co-gestion, le partenariat, dans certains domaines, tu sais, c'est déjà ancré, peut-être différemment d'une direction à l'autre, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, OK? Mais quand on regarde un moteur qui a été très important pour nous, mais nous, on était déjà là-dedans, on était déjà tout installé exactement comme le ministère a demandé qu'on le fasse quand la pandémie est arrivée. Parce que là, on s'est rendu compte que les médecins travaillaient de leur côté, les gestionnaires de leur côté, puis qu'il y a des choses extrêmement importantes à mettre ensemble. Fait que c'est ça que le ministère nous l'a demandé, et il souhaite vraiment que ça soit pérenne et que ça se développe encore plus.
OK, fait que c'est quand même très oui. récent, là.
Ça fait quelques
relativement,
années.
Oui, parce que moi, je connais des médecins qui ont travaillé, qui ont, sont partis en co-gestion dans leur direction et tout ça. Moi, je dirais au moins 10 ans,
okay.
Mais des balbutiements, là.
Oui, ou certains okay. lieux, un peu comme vous mentionnez, ouais. en oncologie ou très spécialisés, que là, ils seraient sans, ouais. mais on peut dire qu'à l'hébergement, au niveau de la direction, ouais. ça n'a ouais. pas... c'est une histoire de quelques années.
Quelques là. Années, oui. puis... Ouais. Je ne le dis pas à la blague quand je dis docteur Suzanne Lebel, parce que quand j'ai débuté mes fonctions comme directrice, bien tout de suite, docteur Lebel a levé la main et a dit « Hey Maryse, on fait-tu de la co-gestion? » Moi, au début, bah, « Oui. » Mais tu sais, là, je me recule quasiment parce que ça faisait peur, parce que je ne connaissais pas mm-hmm. ça. Mais docteur Lebel a été vraiment une muse là-dedans. Vous l'entendez parler tout le monde depuis le début du balado, comment... ça coule bien, comment elle explique bien les choses, l'ouverture qu'elle présente, l'expérience.
Mm-hmm.
Fait que c'est là-dessus que je me suis appuyée. Puis ce qu'elle a amené, je me permets, Dr. Lebel, je m'excuse, là, mais c'est la voix du résident, la voix de l'usager, de le coller beaucoup, beaucoup plus proche mm-hmm. de nous
ouais.
pour s'assurer qu'on ne le perde jamais de vue.
Mm-hmm.
Dans des considérants, dans des... ce soit dans des considérants qu'à un moment donné, ben il est trop éloigné, tellement loin que ça perd son essence.
Oui.
Fait que ça, c'est oui. ça que ça l'a amené. Oui.
Puis autant, là, tu sais, quand j'étais à l'Institut de gériatrie, je faisais ça avec l'infirmière-chef. Mm-hmm. On se rencontrait tous les matins, quelques minutes, pour regarder où on est rendu, où sont les difficultés. Quand j'ai été à Mont-Laurier, le gestionnaire sa porte de l'époque, là, j'allais frapper à sa porte, puis tout ça, il me regardait en voulant dire « Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? » Puis, c'était quasiment « Qu'est-ce qu'il prend de débarquer dans mon bureau? » Ben, à un moment donné, il a compris.
Mm-hmm.
Et là, on s'est mis à travailler ensemble pour vrai. OK? Puis, à l'époque, le gestionnaire de maison, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais c'était l'équivalent. J'arrêtais à son bureau en arrivant le matin. Au début, c'est ça, il me regardait. À un moment donné, lui aussi, là, il a fini par comprendre. Puis il a vu aussi jusqu'où j'étais capable de m'impliquer, mais sans dire quoi faire. C'est pas ça le but. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis pas une gestionnaire. Oui, j'ai de l'expérience, j'ai plus de formation que j'en ai déjà eu. Mais je ne suis pas une gestionnaire. Comme tu disais tout à l'heure, Marie, oui. C'était pas un médecin.
Non.
OK? Fait que quand on a l'ouverture d'esprit d'écouter les deux réalités, oh là là qu'on peut aller loin. Mm-hmm. C'est là que moi, je parle plus de saut quantique où, tu sais, on ne fait pas juste monter une marche, là, dans l'escalier, on change d'étage et même on va plus loin que ça encore.
Les deux s'influencent à se grandir dans l'objectif commun.
Je vais te reprendre, Mylène. Mm. Pas les deux, les trois.
Oui,
oui.
C'est tout important à fait. Parce que oui, il y a Dr Lebel, oui, il y a moi, mais il ne faut pas jamais oublier
le résident
qui a sa voix et que c'est important de l'entendre, de l'écouter.
Oui.
Parce que c'est vrai que ça nous amène ailleurs. C'est vrai que ça nous permet d'avoir ce regard-là sur la réalité de ce qui se passe. De pouvoir s'ajuster. Parce qu'en fait, là, moi, mon rôle, c'est d'assurer que les processus puissent être très corrects, là, des bons processus.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ouais.
Pourquoi? Pour répondre aux besoins des résidents.
Mm-hmm. Exactement.
Oui, aussi pour que les employés soient bien dans leur milieu de travail, soient heureux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent se réaliser. Mais pourquoi? Pour répondre aux besoins des résidents. Fait qu'on finit toujours à vouloir répondre aux besoins des résidents.
Puis, moi, j'aimerais donner un dernier exemple.
Oui.
C'est quand on a travaillé sur toute la conception des maisons des aînés, le chargé de projet a recruté 11 usagers partenaires ressources qui ont participé à tous les comités. Puis moi, j'ai participé à plusieurs comités et là, je le voyais là, très, très nettement l'apport qu'ils ont.
Mm-hmm.
C'est très important de l'intégrer avec nous. Alors, puis aussi, d'autant plus que c'est un projet en soi, vivre en CHSLD. C'est pas un projet statique, c'est un projet dynamique avec une évolution. Puis, c'est pour ça qu'on doit leur donner une voix et s'assurer qu'on est à la bonne place pour chaque résident.
Mm-hmm. Fait qu'on peut dire que la co-gestion découle directement ben, d'une certaine forme de gestion de proximité.
Oui.
Fait que peu importe le niveau, on
oui.
est en proximité ou également ben, d'une gestion participative. Est-ce que les trois s'influencent, ont un lien ou on est dans complètement autre chose?
Non, les trois s'influencent, la gestion participative, la gestion de proximité, la part de nos usagers, des résidents ou usagers. Quand je parle d'usagers, ça peut être un proche, hein, mm-hmm. usagers partenaires ressources qu'on appelle. Ben, ils ont leur rapport, ils ont leurs droits, ils ont leur voix.
Mm-hmm.
C'est important de tout écouter ça. Puis il y a les considérants aussi au niveau médical, il y a les considérants aussi au niveau de la gestion. Il faut conjuguer tout ça. Mais pourquoi? Bon, j'en reviens encore. C'est pour répondre aux besoins des résidents.
Mm-hmm. Puis est-ce qu'on pourrait croire des fois que ça pourrait ralentir le rythme ou au contraire, on ralentit pour mieux avancer ou on ralentit pas? Ça peut-tu avoir une incidence? Parce que quand même... Mm-hmm. changement dans les manières de faire.
Ça pouvait être une peur pour ma part au début, je l'avoue bien humblement. Ça a été le contraire.
Okay.
Je pense qu'on a pu avancer beaucoup plus vite, aller plus loin, innover sur beaucoup de choses. Fait que je pense que c'est l'expérience, en tout cas, nous dit
oui.
que c'est un plus de plus que même si parfois on sait pas parler, il faut s'attacher, on se rappelle,
mm-hmm.
on pourrait penser que ça...
Ça non, serait plus long, mais
ça
non.
Pas du tout. Pas du tout.
Puis ça vaut la peine
oui.
de prendre le temps de le faire quand on regarde les résultats.
Oui.
Puis je vais parler, je ne nommerai pas, mais je vais parler d'un CHSLD entre autres, mais je sais qu'il y en a plus qu'un, où il y a une gestion de proximité très vivante, où les chefs d'unité, la gestionnaire de site, écoutent les employés, les fait participer. Ça a changé. Tu sais, quand il manque quelqu'un, ben la chef d'unité, là, a même plus besoin de passer par les ressources humaines elle téléphone à un employé, il y a une grande collaboration.
Ils sont mobilisés.
Il y a toujours quelqu'un qui va accepter de remplacer. Le taux d'absentéisme a complètement diminué. Puis quand tu regardes les vidéos qui sont faites là, avec tout, tu vois que les employés sont heureux. J'aimerais juste dire que ça n'existe pas un milieu parfait. Chaque milieu a ses difficultés. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup le rôle des gestionnaires en co-gestion, en impliquant des usagers, que de solutionner, trouver des solutions. Il y en a. Fait que là, quand on sent que c'est toujours ça qui se passe, bien écoute, le niveau de confiance de tout le monde va augmenter. Mm-hmm. On va obtenir une beaucoup plus grande collaboration dans tous les projets qu'on va vouloir faire. Fait que c'est un gros plus. Moi, je le souhaite à toutes les organisations. Ça demande un peu de formation, OK? Ça demande du temps, mais au bout du compte, on devient plus efficace et tout le monde est plus heureux.
Très intéressant. Fait que on peut dire que concrètement, peu importe le niveau où il y a cette co-gestion-là, ça va avoir un impact sur la qualité du soin ou la manière que le soin va être rendu au résident, parce que la voix du résident se porte partout, en fait.
Exactement. Souvent, hein, que ce soit les employés, tantôt, Dr. Lebel parlait des employés, ils savent, ils connaissent souvent la façon de faire, mais c'est la même chose pour le résident. Il sait comment il souhaite ça, il sait, ou les proches. Mm-hmm. Tantôt, Mylène, tu disais, il y en a qui ne sont pas capables nécessairement de bien nommer, hein, on le sait, à cause des problèmes cognitifs ou de leur état, mais les proches sont là pour ça.
Ouais.
Donc, ils sont capables de nommer comment ils souhaitent que ça se passe. Mais si on n'écoute pas, si on pose pas, même si on ne pose pas la question, comment? Comment on va le savoir?
Mm-hmm.
Donc, c'est cette façon-là de travailler, d'aller chercher la vision de l'autre, la voix, de comment on souhaite que ça se passe, puis on essaie de le réaliser au mieux qu'on peut, là.
Puis ça vient probablement aussi, tu sais, on parlait dans les valeurs de bienveillance, oui. Fait que c'est très dans la bienveillance, puis ça peut être avec l'humilité aussi, peut-être des fois de dire, on a peut-être fait de fausse route,
oui.
Faut peut-être changer de chemin, ou faut peut-être bifurquer, puis pour mieux répondre, fait que ça aussi, dans le quotidien, les gestionnaires vont prendre ce pas de recul-là aussi avec le input qu'ils peuvent avoir.
Il faut ça, la capacité de se remettre en question. Mais on le parlait tantôt, on revient, hein? Oh, prétentieux, mais... Oh, faut pas l'être. Parce que dans le fond, ça arrive qu'on doive se re-questionner, puis c'est correct de se re-questionner. Se re-questionner, ça peut dire, oh oui, non, c'est correct, on a... J'étais allée chercher la voix du médecin, j'étais allée chercher la voix du résident, gestionnaire, OK, c'est beau, on peut continuer, puis il y a d'autres fois, non, là. On était complètement à côté, ça ne fonctionne pas, il faut avoir l'humilité de se remettre en question et de changer.
Je trouve ça très intéressant qu'on nomme l'humilité, parce que ça en prend de la part de tout le monde.
Mm-hmm.
Qui suis, moi, pour savoir mieux que la personne qu'est-ce qu'elle souhaite?
Ouais.
Tu sais, alors moi, souvent, je dis aux gens, vous vous connaissez beaucoup plus que je vous connaîtrai jamais, là. Fait que moi, j'ai besoin de vous pour vous connaître. Puis même chose avec les proches, vous connaissez votre parent beaucoup mieux. Alors, on a besoin de vous, puis ça se peut que je me trompe, j'aimerais ça que vous nous le disiez, on peut se tromper.
Oui.
Ça peut arriver, puis mais c'est d'avoir l'humilité de le reconnaître.
Eh oui.
C'est très important.
Ben, j'ai un exemple très concret qui me vient en tête, puis Marie, si tu me corrigeras, là, si je fais fausse route avec le temps, mais... Dans l'exercice de plan de développement qu'on avait fait une journée, puis que chaque maison s'était regroupée, avait le médecin partenaire ainsi qu'un UPR ou un résident. Puis ce que ça l'avait amené, ce qui remontait souvent des résidents, ils nous ressortaient souvent la même thématique. Puis nous, des fois, on partait loin dans nos idées d'innovation. Puis je me rappelle, on avait une discussion après de se dire, il faut se ramener à la base.
Oui.
On nous parle de collation, de nourriture. Fait que cette voie-là a fait partie intégrante après ça du plan de développement, de se dire hey, « c'est ça l'important ». Là, nous, on partait dans des grands projets, ben hein, on va comme revenir à notre base de besoin de base, de dire « on va taper sur le clou, ça en est une priorité ». Ça l'a amené à changer un peu, je pense,
effectivement,
où qu'on pensait qu'on s'en allait.
Oui, parce que des fois, on sait ça, on pense qu'il y a des choses qui sont acquises alors qu'elles ne le sont pas.
Mm-hmm.
La satisfaction du résident par rapport à ce qui est servi comme nourriture, mais ça, c'est un... c'est une histoire un peu sans fin, si je peux me permettre, parce que les goûts changent. Les gens qui arrivent, ils ont leur goût, eux aussi. Mm-hmm. Fait qu'il faut conjuguer là, un petit peu le goût de tout le monde. C'est un milieu de vie collectif aussi, hein? Fait qu'il faut quand même ça aussi se le dire. Ben, on essaie le plus possible de répondre aux goûts et aux besoins du résident. Mais si on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Fait qu'on aurait pu partir sur des super beaux projets, mais toute la programmation ou tous les choix au niveau des menus, pas dressés. Fait que c'est sûr qu'on faisait complètement fausse route. C'était pas ça qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on regarde le type de collation, ils voulaient qu'on regarde les menus servis, mm-hmm. Des façons d'aller chercher les opinions, des sondages. Oui. C'est ce qu'on fait maintenant.
Oui.
Pour telle activité, quelle sorte de menu, pour telle, dans exact. L'année. Et ça fonctionne, les gens sont contents.
Oui, l'animation
ouais.
du repas.
Oui.
C'est banal, ça a l'air de paraître, là, mais on fait quoi? À la fête des mères,
c'est
à la fête
ça.
Des pères.
Oui,
c'est bien. Juste un exemple là, avec du recul, je comme ben c'est clairement ça, la gestion participative puis la co-gestion.
Tu sais, si on se replace dans nos propres vies, là.
Mm-hmm.
Nos vies dans nos maisons présentement n'est pas rien de fait de grands voyages, de souper somptueux et de services dans des grands restaurants. Il est fait de quotidien.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on a au quotidien? Des petites choses qui nous font plaisir. Tantôt, Dr. Lebel, elle disait, alors, avant qu'on commence à enregistrer, elle nous parlait de son café, le bonheur de son café le matin. Fait que c'est une chose qui est simple.
Oui,
tout à fait. Quand même que je proposerais à Dr. Lebel une espèce de programmation, ça n'a pas son café le matin.
La journée partira
pas. C'est parce que là, ça perd son sens.
Exact. Oui.
Fait que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut revenir, des fois, à la base, pour mieux rebondir, puis OK, là, on peut construire là-dessus, mais si la base n'est pas assez solide,
ouais.
là, c'est un petit peu plus difficile. Puis une chance qu'on avait la voix des usagers, des comités des résidents, qui nous ont mis le focus à la bonne place.
Oui,
oui.
Très intéressant. Puis là, bien, on va s'en venir vers la conclusion de notre épisode. Fait que pour nous amener vers la conclusion, j'aimerais ça vous entendre un peu en un mot ou quelques mots. C'est un défi, un mot. Fait que quelques mots, allons-y plus largement, mais... Pour vous, le travail en CHSLD, puis même le quotidien en CHSLD, en hébergement, ça représente quoi? Qu'est-ce qui vous vient en pensant?
Je suis encore dans la bienveillance.
Oui.
Je suis encore dans le prendre soin. Je suis encore dans accompagner les résidents, leurs familles, leurs proches, dans cette étape de vie-là. C'est ma mission, que ça se passe le mieux possible, dans la dignité le plus possible et surtout en bienveillance.
Moi, c'est le mot que j'ai avec moi depuis des années, c'est le mot accompagnement. OK? Traiter quelqu'un, soigner quelqu'un, oui, mais c'est plus que ça. C'est accompagner, puis comme tu dis, Maryse, dans la bienveillance et de permettre le respect de la dignité de la personne selon sa propre définition à elle de la dignité.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai aussi.
Oui.
C'est vraiment beau vous entendre, puis ben, on espère avoir donné le goût
aux
gens d'écouter.
Écouter les balados! Oui.
Donc, on se lance dans ce projet fou, j'ai envie de se dire, qui nous sort de notre zone de confort.
Absolument.
Mais on va aller à la rencontre de gens... extraordinaire, j'ai envie de dire. On a vraiment rencontré des belles personnes. Puis, ben, on espère avoir insufflé un peu de ce qui nous fait vivre et puis qui nous amène notre passion du réseau, mais surtout du soin aux personnes puis de nos différentes maisons.
Exactement.
Au 6 des Laurentides. Oui. Ben, merci de votre participation.
Merci. Merci, Mylène.
Ça nous a fait plaisir.
On pourrait pas finir le balado sans nos remerciements. Donc, un merci aux 6 des Laurentides et au comité de travail édité, dont faisaient partie Dr. Suzanne Lebel, Gilles Montpetit, Mélanie Lepage et Mylène Germain. Un merci tout spécial à Aramis d'avoir créé et enregistré pour nous notre musique d'introduction. Merci à Valérie Ménard du service des communications du 6 des Laurentides. Et un grand merci tout spécial à Marie Janelle d'avoir laissé libre cours à cette idée folle de balado. Merci beaucoup tout le monde.
Des milieux de vie et bien plus.